pas eu d'événement vraiment sensationnel. Il y a eu un traumatisme, c'était la fermeture de la plus grande usine du village, qui était à l'origine la Corte-Berbatch, qui a été exploitée pendant quelques décennies par Omega et qui a brutalement fermé au début des années 80. Et ça, ça a été pour le village, oui, un traumatisme dont on ne s'est pas encore tout à fait remis. Et puis, il y a eu aussi un autre événement, c'était l'incendie du collège. Le collège, c'était, il datait de l'époque où Courtebert s'était industrialisé, on voyait grand. Et il avait la particularité d'être quasiment un familistère, parce que tout était, les instituteurs vivaient là. Il y avait les bureaux, il y avait l'administration, il y avait la bibliothèque, il y avait même des cellules de rétention pour les ivrognes. Tout était dans ce bâtiment. Et quand il a brûlé en 1959, oui, ça a été vraiment un traumatisme aussi pour le village. Par contre, il y a eu plein d'événements heureux aussi, qu'on pourra la relater. Donc on a eu une vie ordinaire, sans être marqué par de grands événements. Mais ces deux choses-là, celles que je viens d'évoquer, ça, ça nous a beaucoup marqué.
Alors, en venant de l'extérieur, en n'étant pas de Courtebert, en parcourant le livre, moi, j'ai relevé quatre événements qui m'ont marqué durant la lecture. Vous en avez parlé, il y a eu l'incendie de l'école en janvier 1959. Il y a eu aussi un fait un peu particulier, c'est l'exécution d'un habitant de Courtebert, David-François Fête. C'était en décembre 1835. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement?
Alors oui, ça, c'est un événement qui a aussi marqué la même mémoire collective, donc il n'y a plus de contemporains, personne ne se souvient plus des personnages. Mais je me souviens que quand on faisait des inventaires après décès, on trouvait des copies manuscrites d'un ouvrage que le pasteur Schafter, qui avait accompagné cet assassin jusque sur l'échafaud, avait écrit à la main. Et c'était transmis comme un traumatisme, un événement marquant. Alors, c'était plus un jeune homme, je crois qu'il avait dans la trentaine, avait mis une servante enceinte, et il était mortifié de l'avoir fait. Il l'avait tué dans une écurie. Il avait été arrêté, jugé et condamné à l'échafaud. Alors, l'exécution publique s'était déroulée à l'entrée de Courtelary. Et d'après la chronique, il y avait à peu près 5000 personnes pour assister à cette exécution, qui était exemplaire. Il y avait à la fois le bras séculier, la justice, qui disait « maintenant il faut payer ». Et puis il y avait toute une brochette de pasteurs qui voulaient bien montrer qu'après un repentir, un assassin pouvait quand même obtenir la grâce divine. Et c'était tout un scénario, une espèce d'événement qui a été théâtralisé. Et ça, oui, ça a beaucoup marqué la mémoire collective.
Et ça a été la dernière exécution dans la région.
Alors oui, à notre connaissance, oui, ça a été la dernière exécution, oui.
Ensuite, autre moment marquant, c'est en mars 1980, l'Assemblée Générale du Rassemblement Jurassien à l'Hôtel de l'Ours et les émeutes entre les pro-jurassiens, les autonomistes et les antiséparatistes.
Alors, écoutez, ça c'est un chapitre que j'ai écrit vraiment sans plaisir, mais ça fait partie de l'histoire du village. Courtebert a été pendant 10 ans meurtri par les divisions liées à la question jurassienne. Moi, j'ai vécu ça très mal, un petit peu dans la situation d'un enfant dont les parents se divorcent, se lancent la vaisselle à la tête. Ça a été extrêmement dur. Et puis alors, le paroxysme, c'était cette journée de 1980 où on a failli arriver au drame. Ah, il s'en est fallu de peu. Mais heureusement, on est revenu là-dessus, on a pansé les plaies, et maintenant, c'est plus qu'un mauvais souvenir. Mais vraiment, là, je l'évoque sans aucun plaisir. Et c'est à l'honneur de personne.
Vous avez aussi évoqué tout à l'heure l'essor de la Courtebert Watch, l'usine hein, qui a fait parler de Courtebert dans le monde entier.
Alors oui, la marque de la fabrique étaient précisément Courtebert, donc les gens qui y travaillaient et qui habitaient Courtebert s'identifiaient totalement à cette usine dont on voyait le nom, la raison sociale un peu partout. Moi, j'ai vraiment souvenir à une dernière course d'école. On s'était trouvé de nuit à Milan, et sur la place du Dôme, il y avait une énorme lettre Courtebert. Et là, alors, c'était un sentiment de fierté. On était au centre du monde. Alors, l'aventure de la Courtebert s'est terminée dans les années 60. L'usine a été reprise pendant quelques décennies par Omega, et puis elle a fermé.
Alors, les bourgeois ont aussi une grande place dans votre livre. Aujourd'hui, quelle place ils ont encore à Courtebert, hein, sachant que certaines familles sont présentes depuis le XVIe siècle?
Alors oui, là, il y a aussi toute une tradition au XVIe siècle, mais on peut aller plus loin parce qu'on ne sait pas. Mais eux, ils prétendent qu'ils sont là depuis la nuit des temps, depuis l'Arche de Noé, je ne sais pas trop. Alors la bourgeoisie exploite le domaine forestier, quelques terres. Elle a des restaurants, enfin deux fermes restaurants à la bile et à la cuisinière. Et puis il y a quand même encore ce sentiment d'attachement. Alors contrairement à ce qui se passait dans les dernières générations, les bourgeois n'ont plus le sentiment d'être propriétaires. Ils sont gestionnaires d'un bien public, ni plus ni moins. Donc les relations avec la municipalité et les non-bourgeois sont plus faciles. C'est plus une oligarchie, c'est des gens qui se mettent au service, qui gèrent un bien public, ni plus ni moins.
Comme de nombreux villages de la région, Courtebert a perdu de nombreuses sociétés qui la faisaient vivre socialement, et il est devenu au fil des années un peu une cité dortoir. Quel a été le tournant? À quel moment ça a vraiment changé?
Alors, la fermeture de l'usine. Avant, on vivait quasiment en autarcie, c'est-à-dire que la majorité des horlogers de la fabrique habitaient sur place. Puis après, il y a eu aussi l'avènement de la mobilité, où les gens partaient en voiture et ne restaient plus forcément dans le contexte villageois. Alors, cité dortoir, je ne dirais pas. C'est vrai qu'il y a plus, il reste une industrie encore, plus tellement de commerce, mais il y a quand même une vie locale. Et puis, Courtelary, Courgemont, même Tavannes ne sont pas très loin. Donc on n'a pas l'impression d'être dans une réserve d'Indiens cloisonnés. On vit dans le circuit.
On parle beaucoup de fusion de nos jours. Courtebert a été intéressé à plusieurs projets, mais finalement ne s'est pas inscrit dans l'un d'eux. En tant qu'ancien maire, comment vous voyez cette situation? Fusionner, ça va être obligatoire d'ici quelques années, voire quelques décennies?
Alors la première tentative, c'était la plus raisonnable, c'était avec les villages du Bas-Vallon, c'est-à-dire Sonsbon, Courgemont et Courtebert. Je me souviens que quand j'étais aux affaires, on avait fait une séance pour tâter le terrain, et alors Sonsbon et Courgemont avaient dit carrément non. Nous, on est autonomes, on va bien, on n'a pas besoin de s'adjoindre des gens qui sont moins riches ou moins prospères que nous. Et puis après, il y avait un deuxième projet qui avait été piloté par l'ancien maire de Courtebert, Michel Walter, qui consistait à fusionner le haut du Vallon. Alors, Courtebert était un petit peu à un extrême, comme la Ferrière, et on a senti que pratiquement tout allait se polariser autour de Saint-Imier, donc il y a eu certaines réticences, et effectivement, en 2016, le conseil municipal a décidé de se retirer du projet tout en laissant ouvert une possibilité de collaboration. Mais je pense que ça reviendra par la force des choses. Mais personnellement, je ne souhaiterais pas qu'on trouve une solution qui nous sépare de Courgemont et de Sonsbon, qui font partie de notre cercle scolaire. On fait aussi partie de la paroisse protestante de Courtebert-Courgemont. Et une frontière entre ces deux villages me paraît tout à fait aléatoire. Je pense jamais qu'on trouvera une majorité pour nous séparer de ces deux villages du Bas-Vallon.
On a parlé des événements qui ont marqué le village. Plus personnellement, vous, quel est votre plus beau souvenir d'enfance dans le village de Courtebert?
Alors, c'est des souvenirs intimes et familiaux plutôt que des événements publics. Mais je vous dirais quand même que mon premier souvenir, Il date de mai 40. Et là, j'avais même pas 4 ans. Alors, il y a eu un flash, et puis après, plus rien pendant des années. Et ce flash, c'était le défilé ou la fuite des armées françaises et d'une division polonaise sur la route cantonale. Et moi, je me souviens, j'étais assis avec mes cousines et je voyais ces fourgons d'infanterie, ces soldats harassés qui passaient. Ça n'en finissait pas. Ça, c'est vraiment un souvenir marquant. Par contre, après, plus rien longtemps.
Finalement, vous avez toujours vécu à Courtébert. Vous n'avez jamais eu envie d'aller voir ailleurs?
Ah, ben l'envie n'a pas manqué, mais j'y étais attaché pour des raisons professionnelles, parce que j'exploitais une ferme et que c'est difficilement... c'est difficilement transposable ailleurs. Donc, on est attaché par la force des choses. Mais bon, j'ai quand même eu l'occasion de voir un petit peu du pays. Mais j'ai été heureux dans ce village, heureux. À l'exception des... ce qu'on a parlé tout à l'heure. Ces 10 années de discorde qui ont été extrêmement pénibles à vivre, parce que Courtébert est quand même aussi presque un familistère, tout le monde se connaît, on est à peine 700. Et d'avoir vécu ces années où les gens se regardaient de travers, on ne se regardait plus du tout. Mais sur 80 ans... disons, difficulté, c'est rien en comparaison de tout le reste. J'étais vraiment heureux dans ce village qui est peuplé de gens sympathiques. La population s'est renouvelée, il y a beaucoup de gens qui sont venus d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est l'air du pays, mais eux aussi sont sympathiques. Et, oui, je n'ai pas vraiment eu envie de m'expatrier.